À la fin du 19e siècle, Friedrich Nietzsche, un philosophe assez connu, je pense, a annoncé la mort de Dieu. La mort de Dieu. Son but n'était pas de donner des arguments contre Dieu, ni d'entamer un débat avec les croyants. Il a tout simplement fait le constat que pour la plupart des gens en Europe, l'existence de Dieu n'avait aucune importance ni aucune influence dans la vie ordinaire des gens. Dieu était complètement absent de la vie quotidienne. Et étant donné que Dieu était mort, Nietzsche s'est posé la question, pourquoi maintenir cette superstition insupportable? Que Dieu existe ou non, ça ne fait aucune différence dans le monde. Dieu est mort. Et Dieu est toujours mort en Europe. Il est mort dans les universités, il est mort dans le débat public, il est mort dans les marchés, il est mort dans beaucoup d'églises aussi. Souvent, quand je parle de Dieu à des gens, leur réponse est la tapis, c'est l'indifférence. Mais si nous nous débarrassons de Dieu, quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative, c'est-à-dire un monde sans Dieu? Il y a beaucoup de réponses possibles à cette question, mais la réponse que je veux étudier aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre qui va faire l'objet d'une nouvelle série de prédications à partir de maintenant, aujourd'hui. Alors, l'Ecclésiaste, c'est un livre qui contient cette phrase très connue, « Vanité des vanités, tout est vanité ». En lisant cette phrase et d'autres phrases semblables, on a l'impression que le livre de l'Ecclésiaste n'est pas très édifiant. Mais je vous propose d'étudier ce livre pour trois raisons. Premièrement, ça parle de la condition spirituelle de beaucoup d'Européens aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'Ouest. C'est un livre qui a été écrit pour une Europe moderne, qui est en lutte avec beaucoup de sujets abordés dans ce texte, dans ce livre. Deuxièmement, ça pose des questions difficiles. Comme, quel est le sens de la vie, par exemple? Dieu se fiche-t-il de nous? Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans la vie? Comment trouver le contentement? Mais troisièmement, ce livre, le livre d'Ecclésiaste, nous révèle notre besoin de Dieu en nous montrant quelle serait l'alternative, c'est-à-dire un monde séculier, un monde sans espoir. Avant d'ouvrir le livre de l'Ecclésiaste, je veux mentionner encore une chose, c'est que ce livre est un peu mystérieux aussi. L'auteur ne se présente pas précisément dans le récit. Est-ce que c'était le roi Salomon? Ou peut-être un narrateur qui présente la vie de Salomon? C'est possible aussi. Ou peut-être une combinaison des deux, ou même ni l'un ni l'autre, on ne sait pas exactement. Des commentateurs ont remarqué que le style ne ressemble pas de celui à Salomon dans des autres livres que Salomon a écrits comme Proverbes ou le Cantique des Cantiques. Il y a d'autres indications dans le texte qui pourraient laisser supposer que ça a été écrit après l'époque de Salomon, avec des influences de la littérature païenne. En plus, ce livre ne contient pas beaucoup de détails historiques ni géographiques. Bon, personnellement, j'ai l'impression que ça a été écrit par quelqu'un en Israël qui a utilisé Salomon comme personnage pour présenter son argument, un argument en faveur de notre besoin de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, ce livre est la parole de Dieu et ce livre est utile pour notre éducation, notre édification et instruction. Donc, on va étudier ce livre. Pour ces raisons, notre but dans cette étude n'est pas d'entrer dans un débat sur toutes ces questions, toutes les questions concernant l'origine du texte ou l'auteur ou des choses comme ça. On va plutôt se concentrer sur l'idée centrale. Et l'idée centrale, c'est quoi? C'est plus qu'une métaphore ou un simple avertissement, ce livre. En fait, ce livre est un livre apologétique, je trouve. Autrement dit, un livre dont le but est la défense de la foi. C'est un argument reductio ad absurdum, pour reprendre une expression de la philosophie. C'est-à-dire, c'est un argument qui montre l'absurdité logique d'une vie sans Dieu. D'accord? À travers une série de questions, de contradictions, d'aphorismes, l'auteur nous conduit vers une idée centrale qui est tout simplement l'idée de l'absurdité d'un univers dans le vide. Donc sans plus attendre, je vous propose de lire Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 11. Et je vais inviter Hélène à venir lire ce texte pour nous. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 11.
Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la pelle qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. Ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, « Regarde ceci, c'est nouveau !» En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard.
Merci, Alain. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque mot qui est contenu dans ta parole. Ces mots qui nous exhortent, qui nous instruisent dans la vérité. Que notre étude de ce texte t'apporte tout l'honneur et toute la gloire qui t'appartiennent, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Cette introduction en 11 versets résume l'absurdité de la vie. Et je veux souligner cette absurdité aujourd'hui en 3 points. Premièrement, cette absurdité se trouve dans le vide qui nous consume. Cette absurdité se trouve dans le vide qui nous consume. Vanité des vanités, dit le texte. Tout est vanité. Il n'y a rien qui échappe au caractère absurde de cet univers, dit l'auteur. Encore une fois, j'attire votre attention sur la question de l'auteur. C'est une question importante, je pense, mais ici, au début, on a quelqu'un qui rapporte les paroles de l'Ecclésiaste. Donc ce n'est probablement pas l'Ecclésiaste qui parle de lui-même, mais un narrateur qui rapporte les paroles d'un fils de David et qui présente un résumé de sa philosophie. Par les expressions « fils de David » ou « roi d'Israël », on peut dire que ce sont les idées de Salomon qui sont présentées dans le récit. Mais le texte ne dit pas Salomon, mais plutôt l'Ecclésiaste. Et le mot « Ecclésiaste » est une traduction grecque du mot hébreu « Kohelet ». Donc on a le « Kohelet », l'Ecclésiaste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne traduit pas vraiment en français. Mais l'Ecclésiaste ou le « Kohelet » pourrait être un enseignant, par exemple, ou un prédicateur. Ça pourrait être traduit par « philosophe » ou « chef » d'une assemblée. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse n'est pas le titre de l'Ecclésiaste, mais son message. Vanité des vanités, tout est vanité. Alors le mot traduit par vanité, encore un leçon d'hébreu aujourd'hui, c'est le mot evel en hébreu. Et ça veut dire vanité, mais aussi quelque chose d'élusif, ou d'insaisissable, d'énigmatique, une vapeur, un vide, une fumée. La futilité, l'absurdité. J'ai remarqué dans la traduction que Hélène a lue, c'était pas vanité, c'était traduit autrement. Mais il y a beaucoup de possibilités pour cette traduction. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Fumée, absurdité, vanité. Votre travail est absurde, selon l'Ecclésiaste. Vos relations avec les membres de votre famille ne sont qu'une vapeur. La nourriture que vous mangez, c'est de la fumée. Les divertissements qui vous procurent du plaisir, comme les films ou les livres ou les jeux vidéo, toutes ces choses sont vides de sens et sont complètement futiles. Toute votre vie, tous vos rêves représentent un vide absurde, selon l'Ecclésiaste. Et pourquoi cette absurdité nous consume-t-elle? Parce que dans un univers sans Dieu, la vide n'aboutit à rien. L'univers commence dans le vide et ça finit dans le vide. Le vide mène au vide. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer cette réalité déprimante. Mais ne vous inquiétez pas, parce que certains athées ont de bonnes solutions à vous proposer en réponse à l'absurdité d'un monde sans Dieu. Albert Camus, par exemple, dans son livre Le mythe de Sisyphe, a parlé du suicide comme d'une solution possible et logique à l'absurdité de la vie. Richard Dawkins, l'athée grandiloque qui vient de Angleterre, nous propose d'ignorer tout simplement le caractère absurde d'un monde sans Dieu. D'ignorer tout simplement toutes ces choses. Il était à l'origine de cette publicité sur les bus en Angleterre qui disait « Il n'y a probablement pas de Dieu, donc cessez de vous inquiéter et profitez de la vie. » Mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? Quand on enlève Dieu de notre vie, ça multiplie les problèmes. Ça complique la morale, la science, la raison, notre concept de la beauté, de la sensibilité, du désir. Ça complique les relations et le sens commun. Le mieux qu'on puisse faire dans un monde sans Dieu, c'est l'absurdité. Le vide nous consume. Mais deuxièmement, l'absurdité d'un monde sans Dieu se manifeste par un univers qui nous raille. L'univers se moque de nous. Dans un monde sans Dieu, il n'y a que ce qui existe sous le soleil, comme on a lu dans ce texte. Il n'y a que ce qu'on observe et rien d'autre. Si on ne peut pas le voir, l'entendre, le sentir, le goûter ou le toucher, ça n'existe pas. Et cet univers qui nous raille, c'est l'univers sous le soleil. Cette expression « sous le soleil » est employée une trentaine de fois dans la Bible, toutes dans le livre de l'Ecclésiaste. Vous avez vu la répétition de la mondanité dans ce prosaïsme quotidien, cette monotonie, le verset 3 à 7. C'est la même chose chaque jour. Le vent souffle. Les fleuves font leur trajet autour de la terre sans cesse. Même le soleil traîne sa carcasse misérable sur son chemin afin de refaire sa course encore une fois le jour d'après. Quelle horreur, la redondance de la vie. Ça me fait penser au film Un jour sans fin. Peut-être que vous connaissez ce film avec Bill Murray. Dans ce film, le personnage principal, joué par Murray, se trouve un jour coincé dans une boucle temporelle. Il revit chaque jour le 2 février dans le même village, entouré des mêmes personnes et soumis aux mêmes événements. Au début, il découvre que ses actions n'ont aucune conséquence sur le jour d'après et donc il fait ce qu'il veut sans se soucier de personne, en sachant que ça sera effacé le lendemain. Mais bientôt, il commence à déprimer. Et finalement, il se suicide seulement pour se réveiller le lendemain matin, comme d'habitude. Et donc, il se suicide encore et encore par des moyens de plus en plus créatifs. Et ensuite, il se fatigue du suicide. Et il entame d'autres projets pour s'amuser. Il apprend à jouer le piano, il apprend à sculpter la glace, il apprend la langue française, il apprend à connaître les gens autour de lui. Mais malgré tout ce qu'il fait, il ne peut pas échapper de son destin redondant. Quelle horreur! Mais c'est exactement ça, la vie sous le soleil. La vie absurde dans un univers sans Dieu. En remarquant l'ironie de ce texte, Saint Jérôme, il y a beaucoup d'années, il a dit, quelle vanité plus vaine que cette vanité, que la terre qui a été faite pour les hommes, cette terre reste. Mais les hommes, qui sont les seigneurs de la terre, se dissolvent en poussière. Quelle vanité. Un monde sans Dieu est absurde. Les versets 3 à 7 montrent la futilité d'une religion comme le bouddhisme, par exemple. Une religion athée qui affirme que l'homme n'est qu'une goutte d'eau dont le seul but est de rejoindre le vaste plein d'eau en bas d'une cascade. Dans les religions panthéistes comme le bouddhisme ou l'hindouisme, d'autres religions comme ça, l'individu n'existe pas. L'individu avec ses idées, ses aspirations, ses luttes, ses désirs est une illusion dans un univers sans début, sans fin et sans logique. L'univers, notre mère aveugle et dépourvue de pensée, a accouché de l'homme. L'homme qui voit et qui pense. Et comme le titan Saturne dans la mythologie grecque qui a dévoré ses propres enfants, l'univers nous dévore. Nous, ses propres enfants. Un univers sans Dieu se moque de nous. L'univers nous raille. Mais troisièmement, et pire encore, dans cet univers absurde, le temps nous efface. Regardez les versets 8 à 11. Cet univers absurde n'est pas capable de nous donner la satisfaction. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire, dit le texte. La dernière musique à la mode sera remplacée par la prochaine nullité. Il n'y a pas longtemps, j'ai mentionné dans une conversation un film que j'ai vu récemment. Et quelqu'un m'a dit, mais il est vieux ce film, non? Oui, c'était incroyablement vieux le film que j'ai mentionné. Il a été fait il y a 10 ans. Incroyable. Apparemment, je n'ai pas conscience que la dernière chose est la meilleure chose par définition. Le reste est une perte de temps. La musique d'hier est passée. Les films qui ne sont pas au cinéma en ce moment sont démodés. Je dois parler de iPhone maintenant. L'iPhone 5. Désolé, mais cette technologie date de l'âge de Pierre. Ne savez-vous pas que l'iPhone 6 allait sortir cette année? Ah oui. Le temps efface tout, vous voyez. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je dois arrêter là pour un moment pour soulever vos objections. La voiture, c'est nouveau, n'est-ce pas? L'avion, c'est nouveau. L'énergie nucléaire, c'est nouveau. Le Beaujolais, ça c'est nouveau. N'est-ce pas? Chaque novembre, c'est nouveau. On est d'accord. Mais malheureusement, la nouveauté elle-même n'est pas nouvelle. Et les hommes qui profitent de ces inventions restent inchangés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et le temps nous efface. Est-ce que vous connaissez le nom Don Lippincott? Don Lippincott a battu le record du monde du 100 mètres il y a 100 ans. Mais ce gars et son record ne nous intéressent pas du tout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des centaines d'autres personnes ont battu le record depuis. Vanité des vanités. On n'a point souvenir du passé, dit l'Ecclésiaste. Est-ce que vous vous souvenez des prénoms de vos grands-parents? Peut-être. Et des prénoms de vos arrière-grands-parents? Ça, c'est pas sûr. Et des générations avant? Probablement pas. Même dans l'Église, est-ce qu'on peut nommer 10 leaders de l'Église du XXe siècle? Oui, on peut. Il faut réfléchir un peu, mais oui. Mais est-ce qu'on peut nommer un grand théologien du VIIIe siècle? Moi, non. Vanité des vanités. Futilité des futilités. Absurdité des absurdités. Tout est élusif, insaisissable, énigmatique. Une vapeur, un vide, une fumée. Le temps nous efface sans pitié. Encore une fois, l'idée principale des versets 8 à 11, c'est le caractère futile du temps qui passe. le vide nous consume, l'univers nous raye, le temps nous efface. Mais l'horreur la plus horrible, ce n'est pas ce qui est mentionné dans ce texte, mais c'est celui qui n'est pas mentionné dans ce texte. La vanité la plus vaine, c'est l'absence de Dieu. Dans un monde absurde, il ne peut pas y avoir, il ne doit pas y avoir un Dieu souverain qui entre dans une relation de grâce avec une humanité futile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ecclésiaste, le Coëlette, le philosophe, nous présente un argument réductio ad absurdum, en nous dévoilant comment un monde ou le monde sans Dieu aboutit logiquement à l'absurdité. Mais ce texte nous suggère quand même une espérance. N'oubliez pas que le Coëlette ne nous présente que la vie sous le soleil. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Au-dessus du soleil, il y a quelque chose de nouveau. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, Jésus dit de son trône, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. » En Jésus, il y a une nouvelle alliance. Il y a un nouveau cœur pour ceux qui croient en lui, qui se repentent du péché futile et vain de leur vie. Dieu fait quelque chose de nouveau chaque fois qu'il transforme un cœur de pierre dans un cœur de chair. Mon espoir pour vous aujourd'hui, c'est que vous vous prêchiez ce message à vous-même chaque jour, le message de Christ. Je vous encourage à apporter ce message à vos amis aussi. Pour les gens autour de nous, Dieu est mort. Nos amis non-croyants vivent dans la vanité malgré ce qu'ils nous disent parfois. Mais il y a deux choses que vous pouvez faire pour eux. D'abord, leur montrer la conclusion logique de leur univers sans Dieu. Montrez-leur à quoi leur monde se réduit moralement, psychologiquement, ontologiquement, logiquement. Montrez-leur l'absurdité de leur monde sans Dieu. Mais ensuite, ne les laissez pas dans cette futilité. Rappelez-leur cette réalité extraordinaire. Votre vie n'est pas une vapeur. Elle ne finit pas dans la poussière. Il y a un sens à cette vie en Jésus-Christ. Le Dieu au-dessus du soleil est venu sous le soleil afin de donner sa propre vie pour nous et afin de nous offrir la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions encore pour ces mots profondément honnêtes qui parlent clairement de notre monde aujourd'hui et qui nous conduisent non pas à la désespérance, mais à Christ, qui donne sens à cette vie, qui nous transforme en création nouvelle. Guide-nous dans l'application de ce texte, de cet argument pour la foi chrétienne. Aide-nous à montrer aux autres la bonne nouvelle qui vient de toi, qui dépasse cette vie sous le soleil. Au nom de Jésus, Amen.